Rencontre littéraire, Václav Richter.
Dans la première partie de l'entretien avec Benoît Dutertre, présenté dans cette rubrique il y a une semaine, il était question de littérature et notamment de son roman « Le voyage en France ». Dans la seconde partie que nous vous proposons aujourd'hui, cet écrivain musicologue évoquera d'autres thèmes qui lui sont proches. Il reviendra sur sa polémique avec les auteurs de la musique atonale, parlera de son admiration pour le compositeur Bohuslav Martinů et ne cachera pas non plus son engouement pour l'opérette, genre décrié qu'il cherche à réhabiliter. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans la société moderne ou bien quels sont les défauts de la société moderne d'après vous?
C'est complexe, c'est aussi un sujet de ce livre, c'est-à-dire que curieusement, quand je voyage aux États-Unis, je m'y sens presque mieux. Alors qu'ici, je déteste les États-Unis, tout ce qui est copié un peu bêtement des États-Unis, quand ça se passe en France ou dans n'importe quel pays d'Europe, je trouve ça insupportable. Quand je suis là-bas, je suis pris dans le bain de la... Je suis dans le modèle, dans la pure modernité. Et là, ça devient tellement naturel et ça n'est pas tellement schizophrénique, justement, que finalement, je le supporte beaucoup mieux, d'une certaine façon. Non, c'est évident que j'ai plutôt un tempérament nostalgique. Alors, ça fait beaucoup toujours de polémiques en France avec mes livres, parce qu'effectivement, je critique toujours la modernité. Alors, d'un côté... il y a ceux qui m'attaquent en disant vous êtes réactionnaire, vous n'aimez pas le monde moderne. Mais d'abord, pourquoi faudrait-il aimer le monde moderne? Les artistes ont toujours rêvé d'autres âges d'or qui n'existaient sans doute pas. Balzac préférait l'époque qu'il n'avait pas connue, qui était avant lui. La nostalgie, ça fait partie du tempérament artistique. Mais inversement, je pourrais dire aussi, et je le dis aussi, que ma critique de la modernité, c'est pas une critique anti-moderne. Moi, j'aime l'art moderne, j'aime le surréalisme, j'aime la musique moderne, j'aime Stravinsky, et donc je suis dans une position critique, non pas de la modernité, mais de ce que la modernité est devenue. C'est-à-dire la façon dont la modernité s'est transformée dans un système industriel, économique, et assez totalitaire, même un système de pensée. Ça, je n'aime pas. Cette modernité est devenue vraiment un dogmatisme. Mais la modernité comme liberté d'esprit et d'invention, je l'adore.
C'est ce que vous reprochez donc aussi à la musique atonale, n'est-ce pas?
Oui, ça rejoint exactement ma réflexion sur la musique, exactement. C'est la métaphore, c'est-à-dire, effectivement, la modernité, c'était un mouvement d'affranchissement, d'exploration, de libération, d'imagination extraordinaire. Hier soir encore, j'écoutais les noces de Stravinsky, c'est tellement magique, on peut pas résister à ça. Mais j'adore aussi, puisque je suis à Prague, je pourrais dire les symphonies de Martinů, qui sont pour moi des vrais chefs-d'œuvre du milieu du XXe siècle. Ça, c'était la modernité comme aventure. Et avec la musique atonale et une grande partie de l'art contemporain, à partir des années 50, la modernité est devenue une espèce de système très austère, autoritaire, intransigeant, qui à mon avis est vraiment la négation même de ce qu'est la liberté et la fantaisie moderne. Évidemment, l'artiste n'est pas là simplement pour flatter l'ego du public, mais en même temps la position des avant-gardes selon laquelle l'artiste serait une espèce de souverain dans sa tour d'ivoire et selon laquelle le public serait là simplement pour essayer de comprendre et d'apprendre et de se soumettre à la pure invention, je n'y crois pas non plus. Je crois qu'effectivement, il y a toujours dans l'art une interaction entre le créateur et son public. Et je pense que ça marche ou que ça marche pas, et il se trouve que dans toute une partie de la musique contemporaine, ça marche très bien. Je connais pas très bien la musique tchèque d'aujourd'hui, mais pour prendre quelques exemples, la musique de John Adams aux États-Unis, la musique de Goretzky en Pologne, la musique d'Arvo Pärt dans les pays baltes, la musique de Schnittke entre Allemagne et la Russie, la musique de certains compositeurs français aujourd'hui qui sont pas si connus internationalement, mais qui ont beaucoup de succès en France, comme Jean-Louis Florence, Philippe Hersan, etc. Ça, tout ça, c'est une musique qui a trouvé son public tout naturellement. Je veux dire, il n'y a pas eu ni d'efforts particuliers des créateurs, ni de leçons forcées d'enseignement au public. Non, c'est quelque chose qui s'est fait tout seul. C'est vrai que ce sont tous des compositeurs qui ont en commun d'écrire dans un langage tonal au sens large, parce que ça marche.
Vous avez parlé de Martinou. Quelles sont les qualités de cette musique, d'après vous ?
D'abord, j'aime bien parce qu'il est l'élève de Roussel, qui est un de mes compositeurs français préférés, un peu éclipsé par Debussy et Ravel. Et alors, je trouve qu'il y a d'une part chez Martinou cette force rythmique qui d'ailleurs existe aussi chez Roussel, mais qui est assez extraordinaire. Je veux dire, c'est toute la musique de la première moitié du XXe siècle, mais on trouve ça chez Prokofiev ou Stravinsky. Mais lui, c'est vraiment un expert en rythme efficace, en rythme motorique. On est pris comme ça par sa musique. Et en même temps, il y a une qualité harmonique et mélodique qui peut être parfois déchirante, d'ailleurs, dans certaines pièces, mais qui est très, très, très saisissante. Et je trouve que là, on est justement dans un langage tonal, je veux dire, complètement dégagé de la tonalité fonctionnelle du 19e siècle.
Vous avez écrit aussi un livre sur l'opérette, un genre tombé en désuétude, d'après beaucoup. Pourquoi aimez-vous l'opérette ? Qu'est-ce qu'il y a de si vivifiant, de si charmant dans l'opérette ?
J'ai d'abord aimé Offenbach, je dirais à cause d'une espèce de folie. Pour moi, ça, j'ai aimé en même temps Ionesco et Offenbach, si vous voulez. Il y a une espèce de folie très pré-dadaïste dans les opérettes du Second Empire, chez Offenbach ou chez Hervé. Donc ça, j'ai aimé d'abord ça parce que c'était une forme de modernité radicale sous l'apparence d'un petit genre divertissant, quoi. Et puis, après, ça a dû être aussi un peu par provocation. C'était tellement mal vu comme musique que j'ai voulu fouiller d'un peu plus près. Et j'ai découvert que dans le monde de l'opérette, il y a des vrais grands musiciens, comme André Messager, qui a été l'ami proche de Debussy, de Puccini, de tous les plus grands compositeurs, comme Reynaldo Hahn, comme Franz Lehár. Pour moi, ce sont des vrais grands musiciens qui savent tenir cette chose-là qui m'intéresse. C'est trouver une espèce d'équilibre entre la veine populaire et la musique élaborée, si vous voulez. C'est quelque chose qu'on a un peu perdu aujourd'hui, que ce soit en littérature, en théâtre, en musique. On a l'impression qu'il y a d'un côté une avant-garde qui est toujours de plus en plus sophistiquée, hautaine, prétentieuse, comme on dit en France, qui se prend la tête. Et puis de l'autre côté, un art populaire qui est de plus en plus vulgaire, commercial, et vraiment assez déprimant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui fait le pont entre les deux. C'est tous les arts intermédiaires, quoi.